Mémoire vive,
présentée par Stéphane Bou
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Retour à Lemberg est un livre difficile à répertorier. C'est à la fois le récit d'autobiographie familiale écrit par le descendant de victimes de la Shoah, le portrait en miroir de deux grands juristes, Erich Lotterpacht et Raphaël Lemkin, qui ont conceptualisé la notion de crime contre l'humanité pour l'un et pour l'autre celle de génocide, double portrait coordonné à une enquête sur la genèse de la justice internationale. C'est aussi l'évocation d'un autre juriste, Hans Frank, avocat d'Hitler et gouverneur général de la Pologne pendant la guerre, condamné à mort à Nuremberg en 1946, ainsi que l'histoire du tribunal qui s'y est tenu. Dans la préface à l'édition française du livre, soutenue par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, Philippe Sand décrit son livre comme un roman policier et précise qu'il s'agit d'un livre sur l'identité et le silence. La ville de Lemberg, Lviv ou Lvov, selon les diverses administrations qui l'ont désignée, est au centre de ce roman policier, le carrefour par lequel sont passés la plupart des personnages principaux de l'enquête. Et retourner à Lemberg, pour Philippe Sand, c'est comme remonter à l'une des origines de la destruction des Juifs de Galicie. Alors bonjour Philippe Sand.
Bonjour, ravi d'être avec vous.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que l'on peut revenir sur cette petite phrase que je viens de citer, quand vous dites au début donc, de cette préface à l'édition française, qu'il s'agit d'un livre sur l'identité et le silence. Et d'ailleurs, à cela, je serais d'ailleurs tenté de dire que c'est aussi un livre sur les coïncidences incroyables qui ont rendu possible ce livre. Silence, donc identité et coïncidence. Je rajoute, moi, coïncidence.
Je vais parler très ouvertement là, parce qu'en fait, j'ai mis ces mots pour des raisons stratégiques. Je me suis aperçu, ce livre a été publié en Angleterre et aux États-Unis il y a 18 mois, et a eu un certain succès.
Et j'en profite pour dire qu'à la fin de cette édition française, il y a un chapitre très intéressant mis en postface où vous analysez toutes les réponses qu'ont eu la première édition de ce livre.
Et on en a encore plus. Et on en a encore plus, on pourrait peut-être parler. Et j'ai constaté, en parlant de ce livre avant qu'il soit publié en France, que la réaction en France était différente. Et différente d'une façon sur laquelle je ne m'attendais pas. La différence entre l'Angleterre et les États-Unis, que ces deux pays n'ont jamais été en collaboration avec les nazis. Pour la France, il y avait une collaboration et ça change complètement la perspective et la réaction. Et une des réactions, déjà ça s'est passé l'année dernière, on prend ce livre et on le met dans un trou qui s'appelle Shoah. Et ça s'est pas passé comme ça dans le monde anglo-saxon. Dans le monde anglo-saxon, dans l'Amérique du Sud, dans l'Afrique du Sud, c'est un livre sur l'identité, premièrement, la mémoire et le silence. Et je voulais absolument indiquer au début que je n'accepterais pas que ce livre soit seulement traité comme un livre sur la Shoah, parce que pour moi, ça touche sur des thèmes universels, des thèmes que j'ai vécu dans le travail que je fais comme avocat, dans des endroits comme l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, Rwanda, Yougoslavie. Il y a les mêmes histoires.
Puisque je vous dis ça, il faut que je précise aux auditeurs deux choses. Une première chose, c'est que vous êtes à la fois français et britannique. Enfin, vous êtes né en Angleterre, vous avez vécu en Angleterre, fait votre carrière en Angleterre, mais votre mère est française, on y reviendra peut-être, puisqu'elle est un des personnages de ce livre. Et deuxième chose, vous venez de le dire, vous parlez de votre carrière d'avocat, et votre carrière d'avocat spécialisée dans le droit international, ce qui évidemment n'est pas un hasard compte tenu du sujet même de ce livre. Mais alors, question, je reviens quand même sur ma question de départ, parce que ça renvoie à l'idée de qu'est-ce qui est le moteur principal qui pousse à l'écriture. Il y a un nom que je n'ai pas prononcé. J'ai prononcé celui de Lotterbach, de Lemkin, de Hans Frank. Il y a un nom que je n'ai pas prononcé, c'est celui de Léon Buchholz.
Voilà. Et c'est mon grand-père.
C'est le nom de votre grand-père, qui est finalement le quatrième personnage de ce livre, celui qui ouvre ce livre, qui commence par un chapitre sur lui. Et est-ce que c'est ça, finalement, le moteur principal, remonter, au fond, à votre origine, oui, et comprendre ce qui s'est passé, notamment, dans l'histoire de votre famille, à ce moment-là de l'histoire?
Tout à fait. Je ne dirais pas que c'est le quatrième personnage, mais le premier personnage, parce que c'est avec lui que cette histoire a commencé. C'est un homme que je connaissais très, très bien. Il vivait jusqu'à 1996, 97. Alors, j'ai passé beaucoup d'années avec lui. Quand j'étais petit garçon, j'allais avec mon frère très souvent rue de Maubeuge, numéro 89, que je connais très bien, à côté de Gare du Nord, que je connais très très bien. Et pour moi, ça, c'est mon grand-père. Mais une chose, quand on était enfant, ni à moi, ni avec mon frère, il voulait pas parler de ce qui s'est passé avant 45. C'était, comme beaucoup de personnes, un silence. Alors, je savais un peu, je savais les grandes lignes, mais je savais pas les détails, je savais pas les noms, je savais pas les visages, et on ne posait pas de questions. Vous savez, c'est un endroit no-go, on n'y va pas, on pose pas de questions. Alors, arrive en ma 51e année, j'ai 50 ans, en 2010, et je reçois une invitation pour aller donner une conférence dans cette université inconnue, dans cette ville inconnue de Lviv, en Ukraine. Et je me rends compte que Lviv, c'est Lvov, c'est Lemberg, et c'est à Lemberg que mon grand-père est né en 1904, et je me suis dit, ah, c'est un moment pour aller trouver un peu qui je suis. Parce que c'était mon grand-père, il fait une partie de moi. Je pose à ma mère la question, est-ce qu'il reste de la documentation? Parce que je voulais trouver, en fait, la maison où il habitait. Ça, pour moi, c'est intéressant. Et ma mère m'a dit oui. Mais elle arrive avec deux sacs pleins de documentation que j'avais jamais vu, je n'avais même pas demandé.
Vous en avez jamais parlé?
On n'a jamais demandé. C'est pas qu'elle a nié l'existence, pas du tout. C'est simplement qu'on ne posait pas de questions. Et assez remarquable pour moi que j'attends d'avoir 50 ans pour poser la question. Je m'installe chez elle, je prends ses papiers et je trouve déjà des choses remarquables. Et je pars à Lemberg pour donner une conférence sur le travail que je fais sur deux concepts. Crime contre l'humanité, protection de l'individu, et génocide, protection des groupes. Et qu'est-ce que je découvre pendant l'été? Par accident, pas parce que je le cherchais, en préparant cette conférence, que le monsieur qui a créé le concept de crime contre l'humanité, il venait de Lviv, il était au FAC qui m'a invité, et personne ne le savait. Étonnement total, mais rien à côté de la seconde coïncidence. Je découvre un peu plus tard, en l'été 2010, que le monsieur qui a créé, qui a inventé le mot génocide, Raphaël Lemkin, venait de Lviv, étudiant dans le même fac, et personne là-bas ne le savait.
Il y avait eu le même prof que le premier.
Incroyable.
Incroyable.
On ne peut pas inventer une histoire comme ça. Et ça se fait poser la question, comment ça se fait que moi, avec mon grand-père de Lemberg, me jette dans ces histoires et je lis ces deux hommes d'une façon qui n'a jamais été faite.
Mais alors, comment vient l'idée de l'articulation narrative? Parce que vous dites roman policier, mais c'est un roman policier qui va dans toutes sortes de directions. Hein. La direction intime, on l'a bien compris, familiale, je veux dire, et la dimension, on pourrait dire professionnelle, au fond, puisque ça touche à votre activité même, hein. La justice internationale, les concepts clés qui ont permis de constituer une justice internationale. Comment vous décidez d'organiser un récit qui va mêler tout ça? Okay. Alors évidemment, il y a Lemberg qui est au carrefour, tout part de là, mais en même temps, c'est pas évident de passer du portrait de votre grand-mère, par exemple, à celui de Lemkin. Comment vous pensez
cet ensemble? Vachement compliqué. Alors, ce que vous devez savoir, pour commencer, c'est que, étant plaideur devant les tribunaux internationaux, on raconte des histoires. Alors ça, on sait comment le faire, on sait comment trouver les faits, comment trouver les preuves, alors ça, on sait comment le faire, mais la question qui a créé beaucoup de problèmes, c'est la structure du livre. En fait, je raconte, c'est un livre qui raconte les histoires de quatre hommes, deux crimes et une ville. Comment arranger tout ça? Alors, j'ai commencé d'une façon complètement différente. Je reviens de Lviv, octobre 2010. Je me décide au printemps 2011, je vais écrire quelque chose là-dessus. À ce moment-là, il y avait seulement trois hommes dans mon histoire. Je n'avais pas encore découvert Hans Frank. Ça s'est venu plus tard en 2011. Et je commence à écrire. Mon agent littéraire à Londres me dit, cette fois-ci, on va faire un peu différent. C'est compliqué, c'est différent. Tu vas écrire le livre et après, on va voir si on peut le vendre. Alors, j'ai écrit un premier projet, 140 000 mots, 500 pages. J'ai mis un an à le faire. Et je l'ai écrit dans un style différent. Pas dans un style, mais la structure était différente. J'ai intermêlé tous les histoires. Alors, j'ai commencé en 1914 et j'ai raconté des histoires au même temps jusqu'à 1946. Le livre, le projet est envoyé à New York et mon agent américaine, Melanie Jackson, me téléphone et me dit « Ah, ben c'est bien intéressant ce livre pour plein de raisons, y compris personnellement pour elle. Je sais à qui je vais l'envoyer, seulement une personne, et elle va l'acheter, mais elle est dure cette femme. » Une éditrice magnifique, Victoria Wilson, je l'envoie, c'est envoyé à Victoria. Elle dit immédiatement « Je l'achète, mais sur deux conditions. » D'abord, que je travaille avec Philippe tout seul avec ce livre, que ne se soit pas vendu en Angleterre avant que j'ai fini avec lui. Et deuxièmement, il doit complètement changer le livre, la structuration. Comment ? Et c'est fascinant. Elle m'a dit, vous savez, les lecteurs intelligents peuvent lire beaucoup de faits, beaucoup d'informations, mais la façon dans laquelle tu présentes cette information est très importante. Et pour eux, avec toutes ces informations, il y aura une confusion. Ce que tu dois faire, c'est que tu commences avec ton grand-père et sa naissance jusqu'à l'ouverture du procès en novembre 1945. Après, la même chose avec l'Artupact, la même chose avec Lemkin et finalement, la même chose avec Hans Frank. Et la dernière partie du livre, à ce moment-là, le lecteur connaît qui est ton grand-père, qui est Lemkin, qui est l'Artupact, qui est Hans Frank. Et à ce point-là, tu reprends le skill avec lequel tu as commencé, la structure avec, et tu mêles toutes les histoires.
Et c'est elle qui vous conseille aussi d'intégrer directement l'enquête que vous faites, de vous mettre en scène, vous, comme enquêteur, parce que c'est assez passionnant. On suit quelqu'un qui parle à la première personne, qui dit « je vais voir, je vais découvrir, je rencontre un tel ». J'imagine que dans votre première version, il n'y avait pas toute cette dimension, disons, d'investigation.
C'est à peu près correct. Il y avait des éléments où je mentionnais en passant, mais le conseil qu'elle m'a donné, c'est un conseil complètement brillant, c'était que ce que les lecteurs aiment, c'est pas seulement ce que tu as trouvé, mais comment tu l'as trouvé. Alors on peut parler un peu plus tard, par exemple, avec Miss Tilney, la femme remarquable qui a sauvé la vie de ma mère à Paris, et tu dois décrire comment tu as trouvé l'identité de Miss Tilney. Et ça, j'ai apprécié maintenant, j'apprécie beaucoup parce que j'ai constaté que absolument les gens veulent savoir le voyage à faire. Mais il y a d'autres raisons. Par exemple, mon voisin à Londres, c'est un grand écrivain d'espionnage, c'est John le Carré. Alors, on déjeune assez souvent, on parle de ces choses,
concurrence difficile pour eux.
Et c'est un peu comme ça qu'on sort dans un style. Mais ce qui est assez intéressant aussi, dès que le livre a été publié en Angleterre en mai 2016. En fait, jusqu'à ce moment-là, ce n'était pas encore vendu. D'ailleurs, maintenant, c'est vendu en presque 20 langues. Et la raison, c'est que les éditeurs en France, en Allemagne, un peu en Chine, au Japon, ne savaient pas où mettre ce livre. C'est quoi ce livre ?
Alors, il faut quand même expliquer une chose aux auditeurs, c'est que le lecteur, à la lecture de votre livre, est pris dans, on pourrait dire, un double suspense. Il y a celui qui concerne votre famille. Est-ce que, quand vous allez me répondre à cette question, on va pouvoir introduire le personnage absolument fascinant de Miss Tilney, peut-être. Et il y a un autre suspense qui est moins, un drame familial, mais une espèce de problème intellectuel. Il y a un suspense, je dirais, théorique, intellectuel, où vous, à partir des deux figures, Lauterbach, Lemkin, de ces deux juristes, vous posez une question théorique. Donc, c'est assez fascinant. On navigue entre ces deux suspens, quelque chose de très humain et quelque chose de très théorique, mais qui aussi nous saisit. Hein.
Parce que, alors, commençons avec le deuxième aspect du suspense. Il faut comprendre un peu la distinction entre crime contre l'humanité et génocide. Si on tue 100 000 personnes, comme ça, systématiquement, sans légalité, ça sera toujours crime contre l'humanité, qui protège les individus. Mais si on tue 100 000 personnes avec l'intention de détruire là où les groupes dont ils font partie, c'est le génocide. Arrivons en 1945, et c'est une sorte de tabula rasa. En droit international, jusqu'à ce moment-là, le droit dit le citoyen, c'est la propriété d'un État. Si l'État veut tuer 100 000 personnes dans son État, le droit international n'a rien à dire là-dessus. L'État peut le faire. Et l'idée vraiment révolutionnaire de l'Artepacte et de Lemkin, c'est de dire qu'il y a des limites sur le pouvoir de l'État. Mais ils l'ont fait d'une façon différente. Pour l'Artepacte, ils l'ont fait en parallèle, ils ne se sont pas connus. Ça, c'est ce que je trouve incroyable, un aspect que je trouve incroyable. Et pour l'Artepacte, l'importance du droit, c'était qu'il protège l'être humain par ses caractéristiques d'être individuel. Chaque individuel pour l'Artepacte a droit de certaines protections en droit minimum simplement parce qu'il ou elle est un être humain. Lemkin dit oui, bah, c'est très intéressant tout ça, mais finalement, on tue les gens en grand nombre, pas à cause de leurs caractéristiques individuelles, mais parce qu'ils font partie, ils sont membres d'une groupe qu'on déteste dans un moment et dans un endroit. Alors, le droit doit les protéger, pas parce qu'ils sont des individus, mais parce qu'ils sont membres d'un groupe. Alors, on a ces deux concepts en parallèle.
Et donc, la notion de génocide arrive sous sa plume à ce moment-là.
Voilà. Voilà. Et pour l'Artepacte, le problème est avec le génocide, ça, c'est que le concept de génocide remplacera le tyrannie de l'État avec le tyrannie de la groupe.
Alors, il y a une chose absolument passionnante dans le livre, c'est qu'on voit comment et l'un et l'autre, Lauterbach et Lemkin, travaillent avec le procureur Jackson pour fournir le premier texte de mise en accusation qui va servir à Nuremberg. Et chacun, évidemment, des deux tire le Jackson vers sa propre conception, l'un vers crime contre l'humanité, l'autre vers génocide. Il y en a un qui va gagner. Je ne dis pas tout de ce suspense-là. C'est
une espèce de... Mais il y a un autre suspense, et c'est le suspense interne à moi. Alors, est-ce que je suis avec l'Artepacte ou la...
J'allais vous la poser, mais juste à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de voir que le tribunal est au sein des procureurs. On hésite en permanence. Hein. Le mot génocide revient, apparaît, disparaît. On peut dire que Lauterbach gagne et que Lemkin gagnera probablement après dans la postérité. Et c'est, alors, effectivement, la question, on se demande aussi sans cesse, mais qu'est-ce qu'il en pense, lui, qui est avocat, concerné par la question? Qu'est-ce qu'il en pense? Moi, j'ai le sentiment, vous me direz si j'ai tort, que quand même, vous êtes vous avez plus d'inquiétude avec la notion de génocide qu'avec celle de crime contre l'humanité. Vous comprenez Lemkin, vous comprenez ses intentions, mais au fond, son concept de génocide vous paraît moins efficace, moins utile que celui de crime contre l'humanité, du point de vue de votre expérience d'avocat.
C'est une double question, parce que il y a la réponse à la question professionnelle et il y a la réponse à la question personnelle. Et les deux réponses sont peut-être pas la même chose. Et c'est pour ça que je dis, en fait, finalement, c'est un livre sur l'identité. C'est un livre qui pose la question, qui est-ce que je suis? Est-ce que je suis principalement un individu ou est-ce que je suis principalement membre d'un groupe? Et je pense que la raison pour le succès du livre, au moins au monde anglo-saxon, que c'est une question que tout le monde se pose. Chaque être humain dans le monde qui réfléchit se pose la question... Qui est-ce que je suis? Est-ce que je suis moi, individu, ou est-ce que je suis moi, homme, femme, chrétien, musulman, juif, athéiste, français, anglais? Comment? Et ça devient une question de autodéfinition. Et ça, c'est l'aspect pour moi le plus complexe dans ce livre, c'est que c'est vrai que intellectuellement, je suis avec l'Artepacte, mais à la fin du livre, j'arrive à un autre endroit, à une autre place.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, l'individu, le groupe, tout votre livre est conçu sur cette tension, hein, vraiment, que vous présentez comme une contradiction, une concurrence. Mais moi, souvent, en vous lisant, je me disais, mais pourquoi, au fond? Pourquoi c'est pas conciliable? Pourquoi on n'est pas à la fois un individu et membre d'un groupe? Et pourquoi le droit doit faire vivre ces notions de manière contradictoire? On peut à la fois considérer qu'on est un individu et aussi membre d'un groupe. Pourquoi il n'y a pas une harmonie possible entre ces deux notions? Alors, moi qui ne suis pas du tout juriste, c'est ce que j'ai eu du mal à comprendre, le sentiment d'une contradiction absolument qu'on ne peut pas résoudre.
Je pense que c'est possible qu'il pourrait y avoir une harmonie, mais en parlant de ça, je dois absolument rentrer dans ma vie professionnelle et de formation et toucher sur mon expérience. Dans toutes ces atrocités qui ont eu lieu après-guerre, surtout Rwanda et Yougoslavie, pour prendre deux exemples, les victimes demandent toujours au procureur, on veut que notre crime, le crime qui a été commis contre nous, soit caractérisé comme génocide. Crime contre l'humanité, c'est pas assez pour nous. Alors ça m'a vraiment, vraiment beaucoup fait réfléchir. Et je me suis trouvé dans des situations complexes où j'étais conseil pour un État qui voulait absolument prouver devant un tribunal international que X ou Y situation, les tueries de Vukovar en ex-Yougoslavie, étaient génocide, pas crime contre l'humanité. Pourquoi ? Parce que pour eux, génocide, c'est plus grand comme crime, mais aussi parce que politiquement, psychologiquement, socialement, culturellement, ça leur permet de dire nous avons été attaqués parce qu'on est des Croates, par des Serbes. Et j'ai vu moi-même que le simple obligation de prouver l'intention de détruire une groupe renforce les tendances envers l'identité du groupe, et je crains que ça crée les conditions exactes que Lemkin voulait éviter. Lemkin a reçu une lettre en 45, juste après que son livre soit publié, par un homme remarquable, un réfugié autrichien, qui lui écrit en lui disant « Je ne vais pas publier ce que je vous écris là, parce que vous êtes mon ami, mais je dois dire que vous, avec votre conception de génocide, vous prenez le même chemin que Hitler. Parce que pour vous, intégrer dans le concept de génocide, c'est une notion biologique, c'est une notion de race. Et même si ça ne mène pas toujours envers la voie qu'a pris Hitler, il y a le danger. Et ça m'a beaucoup touché. Mmh. Alors, c'est un conflit entre, d'abord au niveau professionnel, mon désir pour que le droit soit efficace à protéger les gens, et je vois que Lemkin avait compris que c'est pour ça que les gens sont tués en grand nombre. Mais par contre, sur mon propre identification, je me trouve au fin du livre à côté d'un charnier où il y a les corps de toute la famille de mon grand-père, de ce petit village de Jolkiev, et la famille de l'Artopak, et c'est impossible dans ce lieu de continuer avec une approche purement intellectuelle. Je suis intellectuellement plutôt pour l'Artopak. Mais situé dans ce lieu, j'ai compris exactement ce que Lemkin avait ressenti, ce qu'il avait touché. Il avait raison. Mmh. Alors, internement, pour moi, c'est un conflit.
Alors, bon, malheureusement, il ne reste pas beaucoup de temps. Les lecteurs comprendront tout ce débat que vous venez d'évoquer là. Et c'est à la fois travaillé dans votre livre, expliqué dans les détails, avec les portraits très émouvants de ces deux personnages. Je voudrais quand même pas qu'on se quitte avant qu'on revienne sur l'autre suspense, celui qui concerne votre famille. Et est-ce que vous pourriez dire que finalement, là, une des révélations en enquêtant sur votre famille, c'est que... Vous parlez de secrets, on a parlé de secrets. Il y a des secrets qui doivent tomber. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'au fond, les secrets qui vous bouleversent peut-être le plus, ce sont des secrets de famille qui ne touchent pas qu'à l'histoire de la Shoah. Vous pensiez que c'était là que ça allait, des choses allaient être révélées, mais c'est pas là que ça se joue. C'est en ce sens, d'ailleurs, où peut-être que le livre rejoint des récits universels. Mais les vrais secrets du livre.
Ouais. Les secrets de famille.
Ce sont des secrets de famille comme tout le monde.
On a tous des secrets de famille. Tout le monde a ses secrets de famille. Alors, je me suis trouvé avec ces documentations, ces documents que ma maman m'a donnés. Et immédiatement, dans ces documentations, je vois qu'il y a des questions. Je trouve trois passeports. Des passeports nazis de mon grand-père qui a quitté Vienne pour Paris en janvier 1939. Et j'avais toujours pensé qu'il était venu à Paris avec sa femme, ma grand-mère, Rita, Et sa fille de 1 an, ma mère, Ruth, ça s'est pas passé comme ça, comme je l'ai vu immédiatement avec ses passeports. Lui, il arrive en janvier 39. Ma mère arrive tout seule à l'âge de 1 an en juillet 39. Comment ça s'est passé? Et ma grand-mère reste à Vienne jusqu'à fin 41, début 42. Elle arrive à Paris après 3 ans. Comment est-ce qu'une maman peut rester dans ces... Bon, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais j'avais des questions à répondre. Pourquoi est-ce que mon grand-père est parti tout seul? Qui a apporté ma mère? Et pourquoi est-ce que ma grand-mère est restée jusqu'à 41-42? Alors, ces questions m'ont pris 5 ans à trouver les résultats, mais j'ai trouvé les réponses.
Alors, j'invite les lecteurs à lire le livre et à découvrir tout ça. Ils connaîtront l'histoire de cette fameuse Miss Tilney. On a, comme on dit, teasé en anglais. Ouais. Et c'est un chapitre absolument fascinant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses.
C'est un chapitre qui a lieu à Paris, largement.
Bon, merci beaucoup Philippe Sand. Je rappelle aux auditeurs que votre livre Retour à Lemberg est publié aux éditions Albin Michel et soutenu par la Fondation, la traduction soutenue par la Fondation pour la mémoire de la Shoah.